Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ego sum pastor bonus. Ce dimanche du bon pasteur nous invite à faire réflexion sur la grandeur du sacerdoce chrétien. Le plan de Dieu est en fait admirable, mais il est battu en brèche par l'ennemi du genre humain qui, depuis 2000 ans, n'a eu de cesse de détruire ou de corrompre le sacerdoce catholique. Il y a 2 semaines, c'était le jeudi saint, vous vous souvenez, nous avons commémoré le grand sacrement de l'Eucharistie. Notre Seigneur a transformé du pain en son propre corps, du vin en son sang. Il offrait par avance sa vie, il faisait le sacrifice de sa vie en ce jeudi saint déjà. Et tout de suite, après avoir opéré la transsubstantiation, il a dit à ses apôtres « Faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous le ferez, ce sera en mémoire de ma mort. » Et par ces paroles, notre Seigneur consacré prêtre, ses apôtres, il savait, il voulait déjà remonter vers son Père, il savait que quelques jours après, 40 jours après, en grand jour de l'Ascension, il remonterait vers son Père et il voulait perpétuer son œuvre sur terre. Et donc, son sacrifice puisse être renouvelé partout et jusqu'à la fin du monde pour glorifier son Père, pour glorifier la Trinité Sainte, et aussi pour assurer le salut des âmes, pour appliquer les mérites de sa passion aux âmes pécheresses qui croiraient en lui et seraient par là sauvées. Croire d'une foi évidemment active, qui les font adhérer totalement à notre Seigneur, à son plan. Et notre Seigneur avait pour cela besoin de prêtres. Les premiers furent les apôtres, comme on vient de le voir, ordonnés, consacrés par le Christ lui-même, avec pouvoir de faire d'autres prêtres. Ils étaient non seulement prêtres, mais évêques, les premiers des évêques. Et nous lisons en effet dans les Actes des Apôtres que même imposer la main à des candidats, Paul impose les mains à Timothée par exemple. Et après sa résurrection, nous l'avons évoqué au dimanche dernier, ce dimanche de l'octave de Pâques, après 8 jours après sa résurrection, il apparaît à ses apôtres au Cénacle, qui sont de nouveau réunis dans cette salle où lui-même a institué le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de l'ordre. Il leur dit à ses apôtres réunis, il souffle d'abord sur eux et puis il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis et ceux à qui vous les retiendrez leur seront retenus. » Voilà. Il leur donne le pouvoir aussi d'absoudre les péchés, ce pouvoir qu'il a lui-même, mais qu'il est à même de transmettre, de donner à qui bon lui semble, à qui il veut. Le sacerdoce est un magnifique et merveilleux sacrement qui donne le pouvoir de perpétuer le sacrifice de l'autel, et aussi d'assurer le salut des âmes, avec des effets donc étonnants, des effets tout surnaturels, une marque dans l'âme de celui qui reçoit ce sacrement, une marque indélébile, on appelle cela le caractère sacerdotal, qui lui permet au prêtre d'accomplir d'une manière valide les actes propres au sacerdoce, la confection de l'Eucharistie et l'absolution des fautes. Et c'est donc un pouvoir et sur le corps physique de notre Seigneur et sur son corps mystique. C'est un caractère qui est absolument indélébile. Le prêtre reçoit ce caractère le jour de son ordination et pour l'éternité, il gardera ce caractère, pour sa gloire s'il est sauvé, et pour sa honte si malheureusement il se damne. Il y a donc un lien très fort entre notre Seigneur et ses prêtres. Sacerdos alter Christus, dit-on. Le prêtre remplace ici-bas notre Seigneur Jésus-Christ. Il continue à faire ce que notre Seigneur a fait au cours de son ministère public sur cette terre. Et il a en lui-même les pouvoirs du Christ. Il est donc plus qu'un successeur de Christ. Il est son ministre. Son ministre, sacerdos agit in persona Christi. Il agit en la personne de Christ. Hoc est corpus meum. C'est mon corps, dit le prêtre, en prêtant ses lèvres à notre Seigneur. Ego te absolvo. Je t'absous. Non pas moi, pour être humain, mais le Christ à travers moi. Le Christ qui se sert de moi comme d'une cause efficiente, instrumentale, pour perpétuer cette œuvre salutaire. Et aussi, le prêtre reçoit une grâce propre à ce sacrement. Tous les sacrements ont une grâce propre. Cette grâce sacramentelle de sacrement de l'ordre est une modalité de la grâce sanctifiante qui permet au prêtre d'accomplir saintement les actions propres à son ministère. Saintement la messe, saintement la confession, quand il est dans un confessionnal. Donc la dignité du prêtre est très élevée. Il possède de pouvoir, comme on disait, sur le propre corps du Christ, transformer un simple, banal morceau de pain dans la chair du Christ, à laquelle sont liés, vous le savez, l'âme de notre Seigneur et sa divinité, et puis aussi un pouvoir sur son corps mystique, sur les âmes que Jésus veut racheter, veut sauver. Et donc, il est requis dans le prêtre qui a des fonctions très saintes et que lui-même soit très saint. C'est la plus grande ressemblance possible avec le Verbe incarné. Un homme ne peut pas, de par ses pouvoirs, recevoir une ressemblance plus grande que celle-là. Et tout au long de l'histoire, l'Église a vu se lever de saints prêtres qui ont été vraiment la gloire du sacerdoce, qui font honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Saint François de Sales, lorsqu'il célébrait la messe, le faisait avec un très grand recueillement, une grande dévotion. Les fidèles, les religieuses aussi qui assistaient à sa messe, voyaient qu'il était plongé complètement en Dieu. Il n'avait guère de distraction. Et au moment de la consécration et de la communion, il avait une telle majesté comme prêtre, une telle humilité comme victime, qu'il apparaissait comme transformé en Dieu. On est loin, avec de tels modèles, du prêtre d'aujourd'hui qui n'est pas tourné vers Dieu, tout offert à Dieu, tout transformé à Dieu, mais qui est tourné vers le peuple, pour autour d'une table, pour échanger avec les fidèles, avec le peuple, des sentiments, des impressions. Et si par malheur il n'a pas de fidèles à sa messe, eh bien il l'expédiera en un quart d'heure, ou bien il s'abstiendra carrément de célébrer la messe. Parce qu'il n'y croit plus, il ne croit plus ce que c'est, il ne sait plus ce que c'est vraiment, malheureusement, c'est que la messe. Il y a eu, comme on le disait en commençant, des attaques tout au long de l'histoire qui ont commencé à être vraiment terribles à partir du XVIe siècle et de la réforme protestante qui a dénaturé le sacerdoce et qui a persécuté les prêtres. Songez que rien que dans notre pays, Il y a quand même eu 8500 prêtres qui ont été assassinés pendant les guerres de religion. Et la Révolution française a elle aussi persécuté, elle a guillotiné les prêtres en bon nombre et elle en a exilé énormément. Cependant, ni la Réforme ni la Révolution n'ont atteint les désastres provoqués par le dernier concile de l'Église, qui s'est déroulé, comme vous le savez, entre 1962 et 65. 62, 72. 10 ans s'écoulent, donc début du concile, 10 ans après, on fait un constat, 21 320 prêtres ont été réduits à l'état laïque dans cette petite période de temps. 1967, 1974, 30 à 40 000 prêtres ont abandonné le sacerdoce en 7 années. Et c'était des chiffres qui remontent maintenant à une cinquantaine d'années, voire plus. Maintenant, eh bien, je n'ai pas à vrai dire le nombre de prêtres qu'il y a sur toute la Terre, mais tout le monde ne peut le voir. Tout le monde peut le voir par lui-même et constater qu'il y a une pénurie grave de prêtres. Regardez toutes ces paroisses abandonnées. Et on pourrait comparer justement les chiffres. En 1932, c'est pas il y a si longtemps que cela, il y avait dans le monde 350 000 prêtres encore. Ce qui signifie 3 ou 4 consécrations par seconde. Aujourd'hui, eh bien, voilà, non seulement il y a beaucoup, beaucoup moins de prêtres, mais quelles messes disent-ils ? Sont-ils même prêtres parfois ? On peut se demander. Alors, avec les mesures actuelles qui sont prises de confinement et de fermeture des églises, le risque, on risque de ne pas attirer davantage de candidats, on risque de décourager les candidats au sacerdoce. D'où vient ce problème ? Ce n'est ni la faute des protestants, ni la faute des révolutionnaires, mais la faute des hommes d'Église qui ont perdu la notion du sacerdoce. C'est, il faut remonter au Concile et voir qu'on a entretenu une confusion grave entre le sacerdoce ministériel, dont on a parlé, et le sacerdoce commun des fidèles. C'est notamment dans Lumen Gentium qui commence. Et puis, cette idée, cette confusion, cette équivalence entre les deux sacerdoces, le ministériel actif des prêtres et puis le ministériel commun, le sacerdoce des fidèles, a été entériné par le Code de droit canon et par le catéchisme de l'Église catholique. Et pourtant, c'est bien deux choses très différentes. Depuis toujours, on a su faire cette distinction. Un saint Pierre qui parle effectivement des fidèles comme ayant un sacerdoce savait bien faire la distinction. Le baptême députe au culte divin, députe les fidèles, tout fidèle qui reçoit le baptême, au culte divin, en qualité de membre passif du sacerdoce de Christ. Alors que le sacrement de l'ordre débute à ce même culte divin en qualité de membre actif du sacerdoce de Christ pour exécuter les actes même du sacerdoce, notamment la consécration et l'absolution des fautes. Donc ce sont deux choses bien différentes. Que les fidèles soient invités à s'offrir à la messe, à s'offrir avec le Christ, à s'offrir avec le prêtre, le ministre du Christ qui célèbre la Sainte Messe, oui, bien sûr, mais ils ne peuvent pas assurer les fonctions même du sacerdoce. Et donc, on a entretenu cette confusion, il faut reconnaître que ça nous vient de Luther, qui a aboli le sacerdoce et a prétendu que les fidèles avaient aussi le même sacerdoce. Donc, ça remonte quand même assez loin, mais ça a été comme entériné par les autorités de l'Église catholique. Et c'est là qu'est le drame. Et on cherche aujourd'hui à trouver des solutions, parce qu'on s'aperçoit que ça ne peut pas quand même durer, Alors, ce sont des fausses solutions. La solution d'un diaconat féminin, on cherche à créer un diaconat féminin qui serait d'ailleurs une préparation au sacerdoce féminin pour combler les vides. Et le pape actuel a fait une première commission il y a quelques années pour étudier cette question du diaconat féminin. Il y a eu autrefois, dans l'église, on le voit bien dans l'Église primitive et dans les Actes des Apôtres, il y avait un diaconat, mais c'était pour le service des pauvres. C'était pour oindre les baptisés, les éléments féminins qui recevaient le baptême, les oindre d'huile sainte. Voilà, ça se bornait à cela. Ce n'était pas du tout un sacerdoce, c'était un service proprement féminin. Mais les femmes restaient bien à leur place dans l'Église primitive. Alors on a établi une première commission pour étudier la question. Et cette commission, bien qu'elle ait été composée de gens favorables au pape, a donné sa réponse que ce n'était pas possible. Voilà, ce n'était pas possible. Alors on a refait, c'était pendant la dernière semaine sainte, le pape a refait une deuxième commission pour étudier la question. Mais ce n'est pas la solution, bien sûr. Pas non plus la solution d'abolir le célibat chez les prêtres. Non. Il serait donc grand temps que les hommes arrêtent de faire leur volonté propre. Ils se soumettent à la volonté du Christ, qui a célébré sa première messe en choisissant des hommes, les apôtres, en écartant volontairement toutes les saintes femmes qui étaient autour du groupe des apôtres, et y compris sa sainte mère, qui n'a pas reçu le sacerdoce, et en écartant tout le peuple, les disciples. Ce n'était pas le peuple qui a reçu à ce moment-là la grâce sacerdotale, mais uniquement le collège des apôtres. Et pour pouvoir aussi, il leur a donné le pouvoir d'ordonner d'autres prêtres, choisis parmi les hommes les plus dignes du troupeau. Et donc les apôtres devenus prêtres ont mené une vie célibataire, comme notre Seigneur lui-même, et considéraient comme fonction principale de leur sacerdoce l'offrande du Saint-Sacrifice, comme en témoigne saint Paul. Alors demandons à l'occasion de ce dimanche du bon pasteur que notre Seigneur veuille bien bénir ses prêtres et leur donner de bien assurer leur fonction ministérielle, leur fonction sacerdotale, être prêts même à donner leur vie pour leur troupeau, et puis qu'ils suscitent parmi la jeunesse de nombreuses vocations sacerdotales sur son modèle, lui, le bon pasteur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.